Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Le Guay.
Quel est l'objet de l'art ? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature.
Cette voix est celle d'Henri Bergson, donc né en 1859 et mort en 1941, et qui a connu une gloire nationale et une gloire internationale particulièrement significative pour un philosophe. Donc il a été professeur au Collège de France en 1941, membre donc de l'Académie des sciences morales et politiques en 1901, élu à l'Académie française en 1914 et reçu en 1918, et en 1928, prix Nobel de littérature. Et donc je voudrais débuter cet entretien avec Frédéric Worms. Frédéric Worms, bonjour.
Bonjour.
À la fois sur cette voix et sur cette interrogation, donc, qui est celle de François Azouvi, donc, qui a écrit un livre qui s'appelle « La gloire de Bergson » et qui dit « Qui se souvient encore de Bergson, qui a été un philosophe célèbre, le premier, sans doute, à ce degré ?» Parce que Bergson a la particularité d'avoir à la fois connu une gloire fulgurante et un oubli relativement rapide. Et vous, donc, Frédéric Worms, vous êtes le philosophe ou un des philosophes qui cherche aujourd'hui à réhabiliter, à redonner toute son actualité à Henri Bergson. Donc vous êtes spécialiste de Bergson, professeur de philosophie à Lille 3, et surtout vous entreprenez donc de republier au PUF l'entièreté des œuvres d'Henri Bergson. Vous êtes l'auteur de Bergson et le deuxième sens de la vie. Et vous avez dirigé donc en 2011 un livre qui s'appelle « Lire Bergson » et vous êtes le co-auteur avec Philippe Soulez de Bergson, donc une biographie parue chez Flammarion en 1997. Et puis, si j'ai bien compris, vous allez faire paraître sur un autre thème bientôt, au mois d'avril 2012, un livre qui s'appelle « Revivre ». Alors j'ai deux questions à vous poser pour commencer. La première, c'est: quelle est l'émotion que vous ressentez donc à l'écoute de cette voix donc de Bergson, qui est apparemment la seule archive que nous connaissons? Et deuxième chose, pourquoi, selon vous, Bergson est à ce point important?
D'abord, merci de votre invitation. Je suis très heureux et même un peu ému de parler de Bergson ici, sur ce canal, puisque au fond, on est dans une de ces maisons symboliques dans Paris. Le Collège de France a rendu en 2007 un hommage important à Bergson à l'occasion du centenaire de l'un de ses grands livres, « L'évolution créatrice ». Et l'Académie française s'est associée de façon très forte à la date qui marquait l'année dernière, en 2011, les 70 ans de sa disparition en 1941, et qui marquait en effet l'achèvement de l'édition critique qu'on avait entreprise en fait entre ces deux dates, entre 2007 et 2011. On a en effet, aux Presses universitaires de France, avec toute une équipe de jeunes chercheurs, proposé une édition critique de l'ensemble de l'œuvre de Bergson. Et c'est aussi pour marquer cet achèvement que l'Académie nous a accueillis, et même de nombreux de ses membres ont participé à ces discussions, au premier rang desquels Michel Serres et Jean-Luc Marion, et ça a été un moment particulièrement important. Et comme vous l'avez rappelé, on y reviendra peut-être, la réception de Bergson à l'Académie française a été marquée par la guerre, puisque en fait, il y est élu en 14 et son discours de réception est reporté pour cause de guerre et n'intervient qu'en 1918, un peu avant la fin de la guerre. Donc en un sens, voilà, c'est un moment chargé d'histoire qu'on va réveiller ici.
Voilà. Alors, donc, effectivement, vous parliez d'un colloque. Il y a un colloque international donc, auquel vous avez participé, le 7 juin 2011, qui était donc le dernier grand nom de l'histoire de l'intelligence européenne, donc sur Bergson.
Voilà, le dernier grand nom de l'intelligence européenne, c'est la dernière phrase du discours d'hommage à Bergson que prononce Paul Valéry à l'Académie française, 6 jours après sa mort, en 1941, ce qui est aussi un acte de courage politique, puisque la gloire de Bergson n'a pas seulement été philosophique, et d'un extrême à l'autre, comme vous l'aviez rappelé, on va y revenir, mais aussi politique, et là aussi d'un extrême à l'autre, puisqu'il naît en France, mais de parents étrangers, il est français, connaît tous les honneurs français, il est académicien, grand croix de la Légion d'honneur, puis prix Nobel, et entre autres titres, et il est quand même soumis au traitement que Vichy inflige aux Juifs en France au début de la guerre, et donc sa mort en 1941 pose un problème au gouvernement de Vichy, et Paul Valéry sauve l'honneur d'une façon admirable en faisant ce discours dans un silence très éloquent par ailleurs.
Alors souvenons-nous pour l'histoire effectivement que l'entrée donc, de Bergson à l'Académie française en 1914 a été accompagnée de propos injurieux et antisémites d'un certain nombre de penseurs de l'Action française et en particulier d'Audet qui effectivement stigmatisait cette entrée d'un juif à l'Académie française.
Voilà, je crois qu'on va parler de la relation entre Bergson et Jaurès hein, qui ont été condisciples à l'École normale supérieure et à l'agrégation de philosophie et dont on vient aussi de retracer cette relation. Je crois qu'en 1914, un événement politique très important les concerne l'un et l'autre. Alors au-delà de la guerre elle-même, évidemment Jaurès est assassiné en 1914 et l'entrée de Bergson à l'Académie française est aussi effectivement, comme vous le rappelez, un événement qui a un sens politique. C'est le premier juif à l'Académie française et en un sens donc leur relation est ponctuée de moments très forts et 1914 est pour des raisons tragiques dans le cas de Jaurès et quand même difficile dans le cas de Bergson, très importante.
Alors vous avez raison, effectivement nous nous réunissons autour du thème suivant, Bergson et Jaurès, pourquoi ce thème-là ? Un colloque donc s'est tenu en 2009 à l'École normale supérieure sur ce thème-là, vous y participiez, et donc les annales de ce colloque sont maintenant réunies dans Annales bergsoniennes 5, Bergson et la politique, de Jaurès à aujourd'hui, et donc qui vient de paraître donc, au PUF, avec une préface de Vincent Payon et une présentation donc de vous-même. Un deuxième colloque est réuni dans ce même document, Bergson donc, et la politique, qui a eu lieu en 2009 aussi, non pas à Paris, mais à Liège. Alors effectivement, Bergson et Jaurès. Donc première chose, Bergson et Jaurès donc, étaient condisciples. Ils se sont connus, bien connus, à l'École normale supérieure. Donc ils sont tous les deux de la promotion de 1878. Et il semblerait, vous me reprenez si je me trompe, qu'ils se sont connus avec une forme d'estime réciproque, mais sans affection particulière.
J'irai un peu plus loin, en fait. On pense, d'après d'ailleurs le très bel article de Gilles Candard, qui préside la Société d'études jaurésiennes. Je m'occupe de la Société des Amis de Bergson et lui de la Société d'études jaurésiennes. Et donc, il a fait un point historique très très précis. Il est historien. Et en fait, l'affection était présente, justement. Une affection donc qui allait au-delà de l'amitié et au-delà des différences très profondes, philosophiques, plus tard politiques, et qui a sans doute permis à leur relation d'être plus profonde encore qu'on ne croit et de maintenir un problème commun à travers des différences qu'on croit insurmontables. Il faut bien voir que traiter aujourd'hui de Bergson et Jaurès, comme on a traité il y a quelques années donc de Bergson et la religion, de Bergson et la politique, d'autres relations très importantes, y compris de Bergson et de Peggy, c'est revenir sur un siècle qui a cru pouvoir les séparer de manière irrémédiable. Et en un certain sens, c'est revenir par-delà des ruptures dont la guerre de 14 a été la première et la plus terrible. Justement, je parlais de l'assassinat de Jaurès en 14. Bergson, pendant la guerre de 14, entre son entrée et son discours à l'Académie française, se compromet quand même un peu politiquement dans des discours très nationalistes, dans des discours de guerre sans beaucoup de nuances. Après quoi, il entreprend une mission politique à la Société des Nations. Et donc, cette guerre de 14, on a cru que c'était la séparation irrémédiable, définitive, entre le socialisme pacifiste de Jaurès et le nationalisme engagé de Bergson, en tout cas pendant la guerre. En réalité, on s'aperçoit maintenant, après la publication des deux sources, après l'apaisement des grandes querelles qui ont mené à l'exaltation à un moment, à l'oubli de l'autre, on s'aperçoit que c'est une relation vitale, à tous les sens du mot vital, pour le XXe siècle. Et la préface de Vincent Payon, je crois, vraiment le montre très philosophiquement. Elle est intitulée « Du renouveau des études philosophiques en France ». Et je pense qu'il a en tête ce qui se fait aujourd'hui, mais ce qui se faisait aussi à ce moment-là.
Alors, effectivement, on va y venir, parce que vous avez un article dans ce colloque et dans ce livre où vous faites, autour de la question de la justice, mais on verra ça à la fin, une forme de synthèse en considérant que leur opposition est une opposition nécessaire, qu'il faut penser en tant que tel. Alors, je rappelle juste, non pas à vous, mais à nos auditeurs, que Bergson a été reçu donc troisième à l'École normale supérieure et Jaurès premier. Ils passent tous les deux l'agrégation la même année, donc en 1881. Bergson est reçu second et Jaurès est reçu troisième. Et tous les deux vont après, Bergson à Angers, puis à Clermont-Ferrand et Jaurès à Albi, puis après il y aura la parenthèse de son élection en tant que député, ont une carrière effectivement d'enseignant et donc on peut considérer dès le début, avant que de voir tout de suite un peu quels sont les éléments de dispute, d'affrontement et de rupture, que tous les deux sont, ce qui est connu pour Bergson évidemment, mais ça l'est moins pour Jaurès, tous les deux sont des philosophes formés comme tels et qui vont avoir des oppositions fortes. Alors venons-en aux oppositions. Donc Camille Riquier, qui contribue à ce colloque et donc maintenant à ces textes-là, nous dit qu'il y a entre eux, avant que d'en venir à la synthèse que vous proposez et qu'on verra après, il y a entre eux donc un choc de deux métaphysiques rivales et que cette opposition-là s'est manifestée autour de la thèse de Jaurès, donc qui s'appelle « De la réalité du monde sensible », qui a été soutenue le 12 mars 1892, où effectivement, là, frontalement, Jaurès s'oppose à Bergson, qui a publié en 1889 « Essai sur les données immédiates de la conscience ». Alors, quels sont, pour vous, avant que de faire la synthèse, les éléments de conflit et d'opposition qui sont très clairement manifestés par Jaurès à ce moment-là, quand il s'oppose frontalement à ce que Bergson a dit quelques années avant?
Alors, c'est ici qu'on peut repartir de cette voix qu'on a entendue tout à l'heure, de Bergson, à la fin de sa vie, lisant un passage d'un de ses textes, ce qui est un signe de sa gloire. Sans doute quelqu'un est-il venu avec un micro le voir chez lui, et il avait des rhumatismes vers la fin de sa vie, il ne pouvait plus se déplacer, et lui a demandé, comme on demandait à l'époque, d'écrire une phrase de son œuvre en guise de cadeau sur des photographies, d'enregistrer cette phrase. Que disait Bergson dans la phrase que nous avait fait entendre, qui est effectivement le seul document connu de sa voix, même si on sait qu'il y en a d'autres quelque part, mais bon, il faut lancer des limiers à leur recherche. Il disait, au fond, vous en souvenez, que si nous étions en contact direct avec la nature et avec nous-mêmes, contact immédiat avec la nature, avec nous-mêmes, nous serions tous artistes. Le sous-entendu, c'est que nous ne sommes pas en contact avec nous-mêmes et avec la nature. Nous ne sommes pas en contact avec les données immédiates de notre conscience. C'est ça le paradoxe. Mmh. Il écrit son premier livre en 1889. C'est sa thèse, 3 ans avant celle de Jaurès, qui s'intitule donc « Essai sur les données immédiates de la conscience ». Et donc sa thèse, c'est le cas de le dire, c'est que nous sommes coupés de l'immédiat, séparés de l'immédiat, de la réalité immédiate, de notre vie. Je reviendrai tout à l'heure aux deux sens de la vie, en effet, et à revivre. Nous sommes coupés du sens de notre vie immédiate, de notre vie réelle, et nous sommes séparés par quoi ? Par ce qu'il appelle déjà l'action, le langage, la société, un ensemble de médiations nécessaires, vitales, pratiques, mais qui nous séparent de nous-mêmes. Et pourtant, il faut bien rejoindre cette réalité. Il faut la rejoindre donc par un effort philosophique, de retour à soi-même, à la durée, c'est son concept principal, au temps, à la vie immédiate. Et c'est vrai, pour rejoindre la lecture qu'il nous en faisait lui-même, que c'est la fonction qu'il attribue à l'art. Tout grand artiste dépasse ses médiations pratiques, brise le miroir qui nous sépare de nous-mêmes et donc nous remet en contact. Mais nous ne sommes pas tous artistes, donc nous devons nous retrouver nous-mêmes à travers un effort qui est un effort de coupure avec la coupure, de séparation d'avec la séparation pratique, pragmatique, sociale, qui, selon lui, nous sépare de nous-mêmes. Et au fond, c'est une manière de se remettre en contact aussi avec sa liberté, avec la réalité de notre vie. Que lui reproche alors Jaurès ? Et c'est un débat, j'allais dire, quand même de grande envergure et sur le fond de quelque chose de très commun, avant même, en effet, cette relation sur la justice dont on parlera tout à l'heure. Ce que Jaurès lui reproche, c'est l'idée que pour nous rejoindre nous-mêmes, il faudrait se séparer du monde. C'est comme ça qu'il le lit, en quelque sorte. Il faut revenir à l'intérieur de soi-même, reconquérir une liberté, mais qui, selon Jaurès, vrai ou faux, c'est une autre question, selon Jaurès, et il a une formule très cruelle et qui est restée célèbre, la liberté d'un ermite, de quelqu'un qui se coupe du monde et qui ne peut pas le transformer. Or, pour Jaurès, rejoindre la liberté, c'est rejoindre l'action directement, rejoindre ce qu'il appelle la réalité du monde sensible, justement, contre les données immédiates de la conscience. On voit bien qu'il y a un écho d'un titre à l'autre, presque dans le rythme de la phrase. Mmh. Essai sur les données immédiates de la conscience, de la réalité du monde sensible, au fond, c'est, en un certain sens, l'extérieur contre l'intérieur, le monde sensible contre les données immédiates de la conscience, une réalité contre l'autre. Et donc, c'est vrai que dans sa thèse complémentaire qui porte sur le socialisme, Jaurès a aussi Bergson en tête. C'est-à-dire, pour lui, la liberté ne peut pas être solitaire, ne peut pas être intérieure. Elle est sociale, elle est dans le monde et elle vise à unifier le monde et la conscience. Et pourtant, il y a un point commun, c'est que pour l'un et pour l'autre, la liberté est essentielle.
Alors, toujours dans les points d'opposition, donc Jaurès disait... Ainsi, la doctrine de M. Bergson, quoique opposée à la nôtre, en est la contre-épreuve. d'une part, et deuxièmement, il semblait dénoncer, enfin il dénonçait franchement, ce qu'il appelait donc un culte du moi incommunicable. Donc dans les séparations dont vous avez parlé, donc l'action c'est plutôt ce qui nous sort de nous-mêmes, et donc il y a, si j'ai bien compris, un reproche fait par Jaurès à Bergson d'une forme de quoi, de complaisance, de séparation d'avec le monde, d'un culte du moi, et quand on dit culte du moi à ce moment-là, on pense, et lui pense, plutôt à Barrès, et plutôt donc à ceux qui se replient, en quelque sorte, sur eux-mêmes, au détriment, donc, de l'action.
Alors, il y a deux choses dans cette question, effectivement. D'abord, il faut bien voir l'hommage à Bergson, quand il dit la doctrine de M. Bergson. C'est quand même des jeunes gens, hein. Ils ont un peu plus de 30 ans, ils viennent de soutenir leur thèse, et au fond, l'audace de Bergson est sensible dans l'hommage de Jaurès, c'est-à-dire, il a une doctrine, et au fond, il libère un champ philosophique immense. Et la fin du 19e siècle, ça n'est pas si évident. Il réouvre toute une génération, le lui a dit, le champ de la métaphysique. Jaurès n'aurait pas pu écrire La réalité du monde sensible sans Bergson. Parce qu'on sort d'un siècle pour qui la métaphysique était terminée. Hein. Nous avons nous-mêmes entendu ça aussi dans notre génération en France. Et en fait, là, tout à coup, la revoilà réouverte. Et on peut se battre de nouveau, les uns qui sont ceci, les autres qui sont cela, mais au moins avec une doctrine. Donc c'est déjà un hommage très puissant. Maintenant, évidemment, ça n'est pas la sienne, et le point d'ancrage est certes basé sur une lecture qu'on peut juger aujourd'hui fausse, puisque la liberté de Bergson, elle n'est pas si intérieure que ça. En réalité, il s'agit d'opposer l'action libre à l'action qui ne l'est pas. Et la liberté pour Bergson, déjà dans l'essai, même si elle se base sur un retour à soi, se traduit par une action. Ça n'est pas une liberté de pensée intérieure face à l'action, c'est une action contre une autre. Une action qui nous exprime comme individu, comme durée, face à une action qui nous trahit. Une action, au fond, prise dans des déterminismes spatiaux et sociaux. Donc le moi auquel Bergson revient, ça n'est pas un moi contemplé de l'intérieur, ça n'est pas un moi narcissique et érémitique, au sens où Jaurès dit qu'il s'agit de la liberté d'un ermite. Ça n'est pas le moi de Barrès, auquel Jaurès n'est pas le seul à le rapprocher, puisque peut-être le premier grand livre sur Bergson, qui est de son élève Thibaudet, Thibaudet l'inscrit aussi dans la relation avec Barrès. Donc il y a sans doute un air du temps, probablement. Mais c'est un peu trompeur, puisqu'au fond, l'action, encore une fois, la liberté de Bergson est tout de suite une liberté agissante et certainement pas une liberté purement intérieure. Donc la durée se traduit par des actes, par des œuvres et même par une révolte. Hein. Le terme de révolte est très fort dans l'essai. Liberté est une révolte contre ce qui nous enferme. Donc c'est une libération. Alors évidemment, Jaurès jette un défi à Bergson, il va trop loin, c'est le jeu de la polémique. Ils étaient habitués, ils étaient aussi entrés dans des joutes oratoires, en français et en latin sans doute aussi à l'école normale.
Sur Cicéron.
Sur Cicéron, donc ils refont un peu leur querelle, mais ce sont des choses très sérieuses. Et la querelle de Jaurès avec Bergson les a figés dans des rôles en apparence. Hein. Comme je disais tout à l'heure, celui qui est dans l'extériorité, dans le monde, dans le social, et celui qui serait dans l'intériorité, dans le moi, dans l'art. En réalité, c'est plus compliqué. Mmh. Jaurès est aussi spiritualiste à sa façon.
Alors on va voir justement, oui. Parce
que Bergson est pragmatique et politique à la sienne. Et donc il faut, voilà, il faut dépasser ce jeu de rôles dans lesquels ils se sont eux-mêmes coulés ou moulés à un certain moment. Et on assiste déjà, dans ce petit épisode entre leurs deux thèses, à la création de ce que j'appellerais un moment philosophique et à sa congélation immédiate. C'est-à-dire, dans ce jeu de rôle, c'est très frappant. Je pense que c'est le cas dans tous les grands moments de l'histoire de la philosophie. Au moment même où il se fait quelque chose de vivant, il y a aussi un jeu de rôle qui s'établit, une sorte de masque qui se plie sur le visage. Les acteurs sont en place, la relation peut commencer, mais elle est déjà un peu figée.
Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que dans ce dialogue ou dans cette opposition entre Jaurès et Bergson, Bergson, lui, ne répond pas. Donc, il semble qu'il y a en face de tout ce que dit Jaurès de Bergson, Bergson ne manifeste d'aucune manière quelque réponse que ce soit. Donc, d'où peut-être les incompréhensions ou les difficultés, donc les rectifications que vous faites, vous, a posteriori, sur ce jeu de rôle et cette fixation qui est le fait plus de Jaurès que de Bergson. Et Bergson, non plus, ne cite jamais dans ses œuvres Jaurès, alors que Jaurès, lui, cite à plusieurs reprises Bergson. Deuxième opposition, me semble-t-il, vous me reprenez si je me trompe, mais Jaurès donc s'oppose à l'emprise de la croyance sur l'esprit, il s'oppose au spiritualisme, le subjectivisme tel qu'il le voit chez Bergson relève, selon lui, d'une religiosité néfaste et même dangereuse, et il faut, dit Jaurès, combattre tout cela. Le 7 janvier 1892, donc il écrit un article où il dit, je cite, « Il y a des délicats à l'heure actuelle, des blasés ou des esprits curieux qui, sans être chrétiens, aiment à s'envelopper de formules chrétiennes et à se donner des attitudes pieuses. Ils trouvent brutale et presque inconvenante l'œuvre nécessaire de laïcité que la République a accomplie. Et pour échapper à ce que la politique anticléricale leur paraît avoir de banal et de vulgaire, ils se donnent de petits airs d'orthodoxie. Ou bien ils se réfugient dans un mysticisme vague, semi-religieux, semi-moral, qui ne repose sur aucune doctrine définie et avouée. Sont-ils de l'Église ou hors de l'Église? On ne sait. Ils s'exhalent de leur œuvre, je ne sais quoi, d'équivoque, et on hésite encore entre une odeur d'encens ou un parfum d'étrange incrédulité raffinée. Et je finis juste à la fin. Voilà la question pressante, et c'est l'éluder et la méconnaître que de chercher je ne sais quelle rénovation du christianisme. Ni philosophiquement, ni politiquement, on ne peut séparer le christianisme de l'Église, et l'Église est devenue, aux yeux des gens, une des plus grandes forces d'oppression du monde. Donc il y a bien, chez Jaurès, vis-à-vis de Bergson, à la fois un rabattement de l'esprit du spiritualisme sur le christianisme sur l'Église, et donc, il dit, je résume à peine, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, redonnent vie à l'esprit, donc au christianisme, ou qui le reformulent autrement, donc à l'Église, s'opposent, d'une certaine façon, au travail de séparation de la laïcité et à ce travail qu'est en train d'entreprendre la République.
Alors, je suis obligé de vous contredire un peu.
N'hésitez pas.
Et ensuite de revenir, mais par un autre côté, vers ce que vous venez d'indiquer qui est très important. Je ne pense pas du tout que Jaurès pense à Bergson dans ce texte-là. Bergson, à l'époque, en 1892, n'a de fait rien écrit sur le christianisme et il n'est même pas encore pris dans la querelle de la religion nouvelle qui va apparaître au début du XXe siècle autour de l'évolution créatrice et qui va donner lieu à sa mise à l'index par l'Église catholique. Mais qui n'est pas... Et d'ailleurs, un signe en serait, entre les deux citations que vous venez de faire de Jaurès, le fait qu'il dise « là, il n'y a pas de doctrine », alors qu'il avait dit « la doctrine de M. Bergson ». Donc, il y a certainement des bergsoniens déjà qui s'inspirent un peu de Bergson dans cet esprit, mais ça n'est pas Bergson lui-même qui n'est pas encore, en tout cas, de ce côté-là. En revanche, 40 ans plus tard, en un sens, Bergson lui répond réellement. Mais 40 ans plus tard, en 1932, dans les deux sources de la morale et de la religion, de même qu'en un certain sens, vous disiez au début de votre question que Bergson n'avait jamais répondu à Jaurès, il ne le cite pas, mais comme le montre bien Camille Riquier, dans Matière et mémoire, en 1896, dans son deuxième livre, il répond indirectement à l'accusation de Jaurès sur la liberté dont on a parlé il y a un instant. Mais sur la religion, je termine là-dessus. Effectivement, en 1932, Bergson va distinguer, pour le christianisme comme pour toutes les religions, ce qu'il appelle une religion ouverte et une religion close. Et il y a en effet pour Bergson un christianisme ouvert, qui est même la plus ouverte des religions selon lui, mais qui doit s'opposer, peut-être encore plus que pour les autres, peut-être que c'est le devoir du christianisme encore plus que des autres religions, puisque c'est la plus ouverte des religions, elle doit plus que tout autre encore lutter contre la clôture. Et donc, il est d'autant plus tragique en un certain sens, alors là, c'est pas Bergson qui le dit, je me permets de le rajouter, que la religion la plus ouverte ait donné lieu à des clôtures parfois terribles, hein, et que la religion de l'Évangile ait été aussi celle de l'Inquisition, quoi, pour le dire un peu brutalement. Mais c'est donc en effet une réponse de Bergson à la phrase de Jaurès que vous venez de citer, puisqu'il n'y a pas de fatalité pour le christianisme à être du côté de l'Inquisition. L'idée jaurésienne que le christianisme serait inséparable de ce que l'Église a produit de plus oppressant, Bergson en effet la refuse, hein. Mais il la refuse pour toutes les religions, d'ailleurs. Et toutes les religions sont, selon lui, partagées entre une intuition ouverte, qui est mystique, mais pas du tout en un sens vague. Et donc la mystique vague que dénonce Jaurès n'est pas du tout celle de Bergson. C'est un sens très précis. Ce qu'il appelle le mystique, c'est celui qui, justement, dépasse les frontières de l'humanité en guerre contre elle-même et accède à l'ouverture d'une morale universelle et qui vaut pour tous les hommes. Donc, et chaque religion a sa mystique.
Je vais juste pour revenir juste sur ma question. Donc, je précise que la citation de l'article que j'ai fait vient donc de ce livre Annales bergsoniennes, d'un article de Vincent Duclerc. Et dans l'article de Vincent Duclerc, il dit donc explicitement... qu'il reconnaît, je cite Vincent Duclerc, « chez Bergson et chez Desjardins, relève donc d'une religiosité néfaste et même dangereuse, qu'il convient de combattre sans tarder. » Et dans un article de La Dépêche que j'ai cité, il s'emporte contre ses anciens camarades. Donc, semble-t-il, pour Vincent Duclerc, Bergson et Desjardins sont explicitement visés par le texte que je me suis permis de citer, et ce qui me permet de rebondir.
C'est vrai que, et du coup, c'est un débat interne entre nous aussi, mais...
Ah voilà, je serais bien incapable de trancher comme ça, mais je renvoie donc à plus savant que moi sur cette question, effectivement, de qui est visé derrière cet article-là, et ce qui me permet...
Alors, il faut voir que, par exemple, Desjardins, hein, puisqu'on parle de Desjardins, qui est le fondateur des cadres de Pontigny, qui maintenant sont devenus les colloques de Cerisy, qui fait partie de la même génération, effectivement. Pourquoi est-ce que Desjardins ne peut être visé qu'indirectement, et même, en un sens, pas Desjardins, mais si j'allais dire aussi une sorte d'esprit autour, un air du temps autour de Bergson et de Desjardins, plus qu'eux-mêmes? La raison est simple, c'est que Desjardins, contrairement à Bergson, est profondément laïque. La mystique de Desjardins, qui va fonder une union pour la vérité, qui va fonder des unions pour la paix, les colloques de Cerisy étant encore aujourd'hui les héritiers de ces décades de Pontigny et de cet esprit-là, sont profondément laïques. Hein. Et donc, quand Jaurès dénonce une critique de la laïcité, il ne peut pas penser à Desjardins. Donc, en réalité, ce qui est très frappant dans ce texte, c'est deux choses. Moi, je dirais les choses d'une certaine façon. C'est il critique plus, je pense, une atmosphère qui, en effet, va se saisir très vite de Bergson et aussi d'une certaine mystique laïque un peu vague. Pour leur opposer quoi ? Du côté de Jaurès, hein, cette fois. Un socialisme, en effet, laïque, mais qui n'abandonne pas un côté mystique. Il y a chez Jaurès une religiosité. Hein. Et la thèse qui viendra un an après cette citation que vous venez de faire, de 1892, donc la thèse de 1893, « La réalité du monde sensible », se termine dans un monisme religieux qui fait culminer l'unité du monde et de la société dans une unité divine de l'univers et de l'histoire. Et donc, en un certain sens, ce qu'il faut opposer, c'est en effet une mystique précise à une mystique vague. Alors, ce qui est très frappant, c'est que les rôles se durcissent, en effet, hein, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a quand même autour de ces différents auteurs, tout de suite, des disciples, des groupes, des combats qui se livrent, des vraies et des fausses mystiques, hein, comme dira plus tard leur ami et interlocuteur et critique commun, Peggy, hein, et qui, d'une certaine façon, font que les choses sont tout de suite brûlantes. Mais vraiment, très sérieusement, je ne suis pas sûr qu'ils s'en prennent directement à Bergson et à Desjardins dans cette phrase, mais ça n'enlève rien à la portée critique de leur débat et à la place qu'ont très vite prise des disciples, une rhétorique qui montre qu'ils étaient tout de suite en prise avec leur époque.
Alors, est-ce qu'on ne peut pas considérer, d'un point de vue religieux, enfin d'une approche religieuse, hein, spiritualiste, spirituel, esprit, enfin, que d'une certaine façon, entre Jaurès et Bergson, il y a Kant ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne peut pas considérer que à la question « Peut-on accéder à l'absolu ?» Kant dit non, et Bergson dit oui, grâce à l'intuition. Est-ce que l'absolu, donc ce qui dépasse les hommes, ce qui est au-delà, est-ce que d'une certaine façon, ce n'est pas ça qui oppose fondamentalement Jaurès d'un côté, plus matérialiste, et Bergson, plus spiritualiste ?
Oui et non, c'est-à-dire parce que tous les deux veulent dépasser Kant, en fait. Pour Jaurès aussi, il y a un absolu qui est en effet matériel, mais avec une sorte d'élan cosmique. Hein. Et en effet, pour Bergson, un absolu qui est métaphysique, mais qui est néanmoins dans l'expérience. Parce que là où Bergson reste kantien, c'est qu'on ne peut pas dépasser notre expérience. Bergson n'est pas un penseur de la transcendance absolue. Et s'il y a une mystique, c'est un mystique du retour à l'immédiat, du retour au réel et à la vie. Et d'une certaine façon, même les grands mystiques ne font que revenir à quelque chose d'immédiat qui est caché en nous. Comment est-ce que Bergson critique Kant ? Revenons à notre citation sur l'art de tout à l'heure. Hein. C'est très simple. Qu'est-ce qui nous sépare du réel ? Pour Kant, c'est la structure de notre esprit, structure définitive, indépassable. Sinon par des visionnaires exaltés, etc. Pour Bergson, ce qui nous sépare du réel, ça n'est pas la structure indépassable de notre esprit, c'est la structure relative de notre action, pragmatique, pratique. Et donc, au fond, c'est une structure héritée de la vie, une structure de l'espèce humaine, mais qu'on peut dépasser en revenant à l'immédiat qui se donne avant notre cadre, qui n'est plus un cadre a priori, comme disait Kant, indépassable, absolu, mais justement un cadre relativisable. Et l'art le montre, justement. L'art montre que la métaphysique est possible, puisqu'on peut revenir à l'immédiat. Quand il prend l'exemple de certains peintres hein, ou de musiciens, quand un artiste accède à la sensation par-delà le cadre pragmatique de notre action, quand il voit le monde par-delà nos prismes utilitaires, il prouve que la métaphysique est possible et donc que Kant avait raison, mais seulement en partie. Il avait raison de dire qu'on est éloigné du réel, mais il avait tort de dire que c'était définitif, c'est dépassable. Bon, donc Bergson, c'est vrai, critique Kant. Et l'art, encore une fois, il est mobilisé comme un exemple de ce que la philosophie peut et doit faire. et l'action aussi, puisque l'action libre est possible dans ce monde. Mais Jaurès aussi critique Kant. C'est pas la même critique, mais c'en est une aussi. Alors Jaurès va penser en effet que l'action humaine est dans l'absolu, mais elle est dans un absolu matériel, social, historique, concret. Et en tout cas, disons, une interprétation strictement relativiste de Kant ne lui paraît pas possible. C'est d'ailleurs selon lui ce que les grands socialistes ont ajouté à Kant. La thèse latine de Jaurès parle du socialisme de Kant à Marx. Il commence même avec Luther. Luther, Kant, Hegel, Marx et Fichte. Donc il y a une sorte de double dépassement de Kant. D'ailleurs, nos discussions ne portent pas sur Kant, mais ça peut être intéressant, effectivement. Mais c'est vrai que l'un et l'autre veulent lutter contre l'idée que notre action porterait sur des principes humains, seulement humains, qui nous couperaient du réel absolu, veulent redonner à notre action, de deux façons différentes, mais réellement une prise absolue sur nos vies.
Eh bien, nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons juste après. Donc nous reprenons notre entretien donc avec Frédéric Worms autour donc d'un colloque qui a eu lieu en 2009 et qui vient d'être repris dans Anna Bergsonienne 5, Bergson et la politique de Jaurès à aujourd'hui publié au PUF. Donc autour de la question de l'opposition et ou de la synthèse. Vous qui êtes plutôt homme de synthèse, j'essaie plutôt de montrer les oppositions telles que celles-ci sont mises en évidence par un certain nombre d'intervenants à ce colloque. Donc, opposition que nous avons vue soit sur des questions philosophiques, soit sur des questions religieuses. Et maintenant, il me semble qu'il y a un autre aspect de cette opposition-là qui porterait donc sur la politique. Pour le dire simplement, peut-on dire que Jaurès donc, est plutôt pour une démocratie qui, dans le triptyque qui est au fronton de tous nos bâtiments, insisterait plutôt sur l'égalité, tandis que Bergson serait plutôt pour une démocratie liée à la fraternité. Et je cite donc dans les deux sources, donc 1932, dans les remarques finales, ce que dit Bergson lui-même. Qu'on prenne de ce biais la devise républicaine, on trouvera que le troisième terme, donc la fraternité, que le troisième terme lève la contradiction si souvent signalée entre les deux autres et que la fraternité, donc le troisième terme, est l'essentiel, ce qui permettrait de dire que la démocratie est d'essence évangélique et qu'elle a pour moteur l'amour. Alors je ne pense pas que Jaurès aurait rangé la démocratie du côté de l'évangile d'une part et aurait insisté principalement sur la fraternité, lui insistant peut-être plus un, sur le conflit, et deux, et on voit bien que le texte que je vous ai cité, même s'il ne vise pas Bergson, est bien dans un conflit avec l'Église et son emprise, d'une part, et deuxièmement, que effectivement, il insisterait plutôt sur l'égalité que sur la fraternité. Qu'en pensez-vous ?
Alors, oui, on peut dire ça tout à fait comme ça. C'est vrai en même temps que ce que Jaurès reproche au christianisme, ça n'est certainement pas la fraternité. On pourrait aussi dire que Bergson enracine la démocratie dans l'Évangile, et que Jaurès ferait l'inverse, c'est-à-dire enracinerait ce qu'il peut retenir du christianisme, sous la réserve que l'Église l'a en réalité irréversiblement déformé pour lui, mais enracinerait quand même ce qu'il pourrait retenir du christianisme dans la démocratie. Donc il y a une aspiration à la justice, selon Jaurès, qui est une aspiration à l'unité, il dirait unité plus que fraternité, unité du genre humain, qui est aussi un dépassement de la liberté et de l'égalité. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que pour l'un et pour l'autre, il faut les trois. Parce que Jaurès a des passages qui ont surpris beaucoup de ses camarades socialistes d'avant la Première Guerre mondiale, mais qu'il faut prendre très au sérieux, où il dit l'égalité, c'est quoi ? C'est aussi l'individualisme radical, laisser chacun devenir lui-même. Donc il y a un individualisme socialiste. Bien sûr, c'est l'égalité en premier, c'est-à-dire qu'il faut critiquer l'égoïsme bourgeois, la compétition capitaliste. Et bon, donc Jaurès est socialiste. Mais c'est un socialiste qui mène à l'individualité et à l'unité du genre humain, qui a donc expliqué son pacifisme aussi, qui a été si mal compris. À la veille de la Première Guerre mondiale, il faut bien voir qu'il y a une partie du socialisme qui se range derrière les conflits à leur en marche. Et donc, comment est-ce que Jaurès conciliait socialisme, individualisme et universalisme ? Au fond, c'est son liberté, égalité, fraternité à lui. Alors, la différence entre les deux n'est pas mince. C'est-à-dire, il est très clair que pour Bergson, la mystique politique s'enracine dans une mystique tout court qui dépasse la politique. Et donc, il y a un amour, le mot le dit, la phrase est même très surprenante, très radicale. La démocratie est d'essence évangélique et elle a pour moteur l'amour. Donc, Bergson s'inscrit bien dans ce courant pour qui la démocratie n'est que l'incarnation politique de quelque chose qui dépasse la politique. Pour Jaurès, c'est réellement l'inverse. C'est la religion qui incarne quelque chose qui est profondément humain, politique, concret, c'est-à-dire l'aspiration de l'humanité à s'unifier et qui, en un sens, la détourne. Ce que Jaurès reproche à la religion, c'est ce que Marx lui reprochait déjà, c'est-à-dire qu'il y a une aspiration légitime de l'homme à l'unité, à la fraternité. L'erreur de la religion, c'est de la déplacer dans un autre monde. C'est de nous détourner de la réaliser ici et maintenant.
D'endormir aussi un peu les hommes.
En réalité, pour Bergson comme pour Jaurès, l'aspiration à l'unité ou à la fraternité, elle est peut-être mystique, mais elle doit se faire dès maintenant, sur cette terre, entre les peuples. S'il y a la guerre, il n'y a pas l'unité. S'il y a la guerre, il n'y a pas la fraternité. Donc au fond, ils sont d'accord quand même sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'idée qu'il faut concilier individualité, égalité sociale et fraternité, unité de l'humanité. Sur les fondements métaphysiques de cette aspiration commune, leur divergence reste très profonde, mais on ne pourra pas les opposer sur les principes de base. On ne pourra pas les opposer sur les principes de base. Et peut-être même pas sur certaines conséquences pratiques très concrètes, disons entre le Jaurès de 14 et le Bergson de 32. Entre le Jaurès de 14 et le Bergson de 14, il y a une rupture. Il y a comme un décalage entre eux. C'est amusant parce qu'ils sont strictement contemporains, mais en même temps, entre les contemporains, parfois, il y a de l'anachronisme entre contemporains. Et donc, on a vu, entre leurs deux thèses, il y a un petit décalage. Bergson répond, répond pas. Entre l'objection de 92, Bergson y répondra 40 ans plus tard. Bon, Bergson qui est si précoce, il lui faut 40 ans pour accéder à la philosophie politique. Jaurès, qui est tout de suite en possession de sa métaphysique et de sa politique, n'a pas attendu si longtemps.
Alors justement, donc, on vient à votre thèse et à votre article. Donc dans ce livre, vous faites un article qui s'appelle « Bergson et Jaurès, la justice et l'histoire ». Et je vous cite, page 161, qui est quasiment mot pour mot ce que vous venez de dire.
Au moins, je ne me contredis pas.
Tant mieux de ce point de vue-là.
Je me trompe peut-être, mais façon cohérente.
Donc vous dites, c'est comme si le début de l'œuvre de Jaurès et l'aboutissement de l'œuvre de Bergson se rejoignaient. Alors sur quoi est-ce qu'ils se rejoignent ? C'est, dites-vous, sur la question de la justice. Et vous dites que progressivement, dans l'œuvre de Bergson, apparaît l'idée des droits de l'homme comme un droit absolu qui s'oppose à la justice ancienne et que cette émergence d'un droit absolu rejoint donc l'idée qu'en avait Jaurès 30 ans ou 40 ans avant. Donc la synthèse se fait. Nous arrivons à la synthèse en 1932.
Alors c'est voilà, plus une relation qu'une synthèse parce qu'elle permet la rupture. Vous disiez synthèse, moi je dirais en effet que j'essaye de penser plus une forme de relation qui a des points d'unité ou des points de rupture.
Absolument.
Donc, pas seulement la rupture, mais pas non plus une synthèse où ils seraient d'accord sur tout. Ce n'est pas du tout le cas.
Non, ce que vous dites, je me permets de développer ce que vous dites à l'instant. Vous dites donc dans cet article qu'il faut penser ensemble, comme une relation nécessaire, le dualisme radical de Bergson, d'une part, et le sens de l'unité de Jaurès.
C'est ce que j'allais justement essayer de reprendre. C'est-à-dire qu'il a fallu longtemps à Bergson pour penser l'unité politique. Il a pensé la liberté, puis la vie, et au fond, tout ça ne dessinait pas de contenu à l'action sociale et historique des hommes. Et il a fallu, en effet, qu'il y ait l'épreuve de la guerre, pour que, contre la guerre, il pense finalement que la guerre est du côté de l'espace, de ce qui nous sépare, de ce qui nous oppose, des limites de l'espèce, et que toute action qui va contre la guerre a un sens métaphysique, et qu'au fond, inversement, la métaphysique, la mystique, oriente l'histoire vers la paix, vers la justice absolue et ouverte. Donc deux sens de la justice, deux sens de l'histoire, deux sens, le clos et l'ouvert. Ce qui est très frappant, c'est le pessimisme de Bergson. la clôture est très très forte. Et au fond, si Bergson a mis 40 ans pour accéder à cela, c'est aussi pour cette raison. C'est-à-dire qu'il pense quand même que les obstacles sont bien plus lourds que ne le pensent des socialistes dont il a été très proche. Il a été proche de Peggy, il a été proche de Sorel, il a été proche de Jaurès. Même s'il n'a lui-même pas ces opinions-là, il a quand même toujours maintenu un lien très vivant avec les plus radicaux des socialistes, même, on peut dire. C'était pas rien. Bon. Mais il pense qu'ils sont trop optimistes. Il pense que la clôture entre les hommes est plus profonde, que la guerre a des racines très profondes dans l'espèce. Et ce qui est très frappant, c'est que Jaurès, qui est quand même assez optimiste au départ, qui pense qu'il y a une aspiration à l'unité qui est inscrite dans le cerveau humain, il a un matérialisme très très concret, qui pense que c'est ce qui se traduit à travers l'histoire, à travers la dialectique historique et sociale, les conflits, etc. Jaurès est bien obligé, en 14, justement, de reconnaître qu'il y a une tendance à la guerre dans l'humanité. Et donc, oui, c'est vrai que mon diagnostic, c'est que le dualisme de l'un le conduit finalement à une aspiration à l'unité, et que l'unitarisme de l'autre, Jaurès, lui fait quand même réaliser progressivement une résistance dans l'humanité. Il n'y a pas seulement une dialectique historique, mais il y a une résistance très profonde. Je crois que Bergson n'est pas un dialecticien. Bergson est plus radical que ça. Le clone ne va pas être dépassé magiquement par l'histoire de l'ouverture. C'est une opposition constante. Le clone est une force qui nous tire vers le bas, vers la guerre, vers la haine. Et il faut un effort vers l'ouverture qui n'est pas dialectique. C'est pas un temps, puis son contraire, puis la synthèse, justement. Et au fond, ils finissent par se rejoindre là-dessus. Et dans ses derniers textes, en 14, quand Jaurès voit monter le désastre, il retrouve cette forme de résistance, cette sorte d'archaïsme, comme ça, de la guerre dans l'humanité dont il a cru à un moment qu'elle pouvait se libérer, disons, de façon historique et pas paisible, mais quand même sans cette résistance terrible que va manifester la guerre.
Donc vous dites qu'à 40 ans de distance, enfin oui. 32-14, il y a comme une forme de pessimisme de Jaurès en 14 qui se rend compte qu'effectivement, l'international, les intérêts de classe peuvent être écrasés par les intérêts nationaux, d'une part, et qu'effectivement, Bergson, lui, en 32, mettrait quoi, un peu d'optimisme, c'est ça ? Un peu d'optimisme jaurésien dans son pessimisme foncier ?
C'est pas tellement qu'il met de l'optimisme dans le pessimisme, c'est qu'il fait la théorie de ce qui fonde le pessimisme, qui est la clôture, et de ce qui fonde l'optimisme, qui est l'ouverture. Et d'ailleurs, ça passe dans tout, la distinction, dans les religions qui sont closes et ouvertes, mais même dans le nationalisme. Il y a ce qu'il appelle un nationalisme clos de la guerre, il y a un patriotisme ouvert, qui est déjà une aspiration à l'humanité tout entière. Donc c'est pas non plus une abstraction, l'universel. Et de même pour Jaurès. Jaurès a cherché toute sa vie à concilier l'individu, la liberté et l'égalité, comme on disait, et même l'universel, mais aussi les patries et l'international. Pour Jaurès, l'international n'est pas la négation du patriotisme. En un certain sens, ils sont d'accord sur cette idée, qui pour moi est le cœur de ce moment 1900, qui pour nous est maintenant bien loin. Mais cette idée qu'il y a une dualité irrésistible dans l'expérience elle-même. Il ne s'agit pas de jouer un dépassement transcendant contre une nature qu'il faudrait abolir. Non, c'est dans la vie qu'on est déchiré. On est déchiré entre des intérêts égoïstes et une aspiration à la justice universelle, entre une nation qui serait notre identité contre les autres et un patriotisme qui nous ouvrirait sur tous les autres.
Alors, je voudrais donc pour terminer reprendre ma question du début et ouvrir un peu effectivement sur l'actualité de Bergson, qui consiste à savoir pourquoi est-ce qu'à votre avis, Bergson est aujourd'hui, non pas comme un philosophe daté, mais un philosophe nécessaire aujourd'hui, et comme vous le dites dans un de vos textes, une alternative au nihilisme. Alors, je fais une petite parenthèse, Bergson donc a vécu à une époque où les idéologies ou la croyance dans le progrès ou les conflits ou les oppositions ou l'amour de la patrie s'est refermé dans des nationalismes, etc., etc. Bon, donc, et nous sommes aujourd'hui complètement dans un paysage différent où le nihilisme, c'est-à-dire le fait de ne croire à rien, domine. Alors pourquoi est-ce que dans des contextes complètement différents, vous pensez que effectivement, Bergson a non seulement toute sa place dans la philosophie, alors qu'il a été un peu oublié, bien que repris il y a peu par Merleau-Ponty et ou par Deleuze, qu'il a toute sa place dans la philosophie, mais qu'il est, sans doute, je reprends un peu autrement votre texte, une forme d'antidote au nihilisme actuel.
Tout ce qu'on a déjà discuté va dans ce sens, il me semble. C'est-à-dire, dans quel sens exactement ? Dans le sens d'une philosophie. Et ici, je mettrais d'ailleurs Bergson et Jaurès ensemble, malgré toutes les différences qu'on a vues, qui refusent deux choses. Ils refusent l'idée d'une expérience uniforme où tout se vaut. qui est la base du nihilisme, au fond. Et l'idée que la seule alternative à ce nihilisme, c'est-à-dire l'idée que tout se vaut, que rien n'a de sens, ce serait une transcendance absolue dans un autre monde. L'idée, c'est que dans ce monde-ci, il y a des oppositions qui font sens. L'espace et le temps, la durée et la matière, le clos et l'ouvert. Moi, ce qui me paraît profond, c'est l'idée qu'en effet, il y a une polarité dans notre vie elle-même qui fait qu'elle a un sens sans qu'on ait besoin de le chercher ailleurs, mais sans non plus qu'on puisse la réduire à une seule réalité. C'est un vitalisme critique, comme je redirais maintenant, c'est-à-dire qui pense la vie contre la mort. Georges Canguilhem, dans le XXe siècle, a repris cette idée, au fond, dans l'opposition liée à la maladie. Donc, qui pense l'ouvert contre le clos, qui pense la durée, la liberté contre la servitude, d'une certaine manière. Et donc, oui, notre vie a un sens parce qu'elle est tendue entre deux exigences. Alors, je ne le reprendrai pas exactement comme Bergson. Et pour beaucoup de raisons, le livre auquel je vous remercie d'avoir fait allusion, qui paraît bientôt, qui s'intitule « Revivre », qui se joue entre deux sens du revivre, le revivre répétitif où nous sommes enfermés par une mémoire négative et la renaissance qui a lieu dans nos vies ici-bas, ce revivre n'est pas exactement bergsonien. Mais ce qu'il reprend de Bergson, oui, c'était le titre de mon travail sur Bergson en 2004, « Bergson ou les deux sens de la vie », c'est bien l'idée qu'il y a deux sens de la vie et que notre vie, je dirais, a un sens parce qu'elle en a deux. Parce qu'elle nous tire vers le bas, vers la mort, mais aussi vers l'avenir et vers la liberté. Et de manière immanente, il n'y a pas besoin d'aller chercher ça ailleurs. Mais par contre, on ne peut pas non plus tout confondre ici-bas. Les choses ont un sens, réellement. Un élève de Bergson, Eugène Minkowski, un grand psychiatre et philosophe, disait dans Le Temps vécu que dès le début de la vie, nous marchons vers l'avenir et nous marchons vers la mort. Et ces deux marches ne vont pas dans le même sens, justement. Et oui, je pense que Bergson est en ce sens une alternative au nihilisme, parce que, mais comme je dirais presque tous les grands philosophes, au fond, parce que philosopher, c'est retrouver justement des tensions internes à la vie et qui nous disent ce contre quoi on peut résister, au moins, et pas forcément un idéal positif, mais au moins une positivité dans la résistance à ce qui nous détruit. Et c'est ici que je verrai vraiment l'évolution créatrice, c'est aussi une création contre la destruction.
Eh bien écoutez, nous allons donc arrêter là notre entretien sur Bergson et sur Jaurès. Je voudrais juste que vous nous donniez, pour finir, définitivement, l'actualité bergsonienne en 2011 et ou 2012. Donc vous avez terminé, et c'est vous qui en étiez le maître d'œuvre, vous avez terminé donc la réédition donc des œuvres complètes de Bergson. Qu'est-ce qui est en chantier encore aujourd'hui et qu'est-ce que nous pouvons attendre de plus ou de nouveau sur Bergson, considérant que pour les bergsoniens, donc les deux colloques qui sont repris donc dans le livre qui nous a réunis, donc Annales bergsoniennes 5, Bergson et la politique de Jaurès à aujourd'hui, donc les deux colloques 1 sur ce que nous avons développé aujourd'hui, c'est-à-dire Jaurès et Bergson d'une part, et deuxièmement, et nous n'avons pas eu le temps de le faire, sur Bergson et la politique, apportait des éléments particulièrement nouveaux. Donc qu'attendre en 2012 et 2013 ou 2014 ?
Alors justement, vous m'enlevez les mots de la bouche avec ces derniers mots, parce qu'en réalité, alors c'est vrai qu'on a donc terminé cette édition critique de Bergson, qui a été, je pense, une œuvre collective forte. Et comme vous l'avez dit aussi au début, il y a eu un oubli assez long de Bergson, ce qui fait que c'est un continent en réalité qui commence à peine à être réexploré. Et le grand chantier des 2-3 prochaines années, il y en a d'autres. Il va y avoir un très grand colloque sur Bergson et Freud. Il va y avoir des grandes choses de toutes sortes. Mais le grand chantier, vous venez de le dessiner, on s'approche déjà à grands pas du centenaire de la guerre de 14. Et avec beaucoup d'amis historiens, dans le Centre de philosophie française contemporaine dont je m'occupe, on est en train évidemment de méditer ce centenaire. Et je vais essayer de lancer un grand projet intitulé « L'Europe philosophique en 1914 », dont les études sur Bergson vont être un des piliers, puisque Bergson était, comme vous l'avez rappelé aussi, le philosophe entre 1900 et 1914. Parallèlement, il y a un grand chantier qui s'ouvre sur Bergson dans la culture européenne. Bergson n'est pas seulement un auteur franco-français comme on le croit parfois. À ses cours du Collège de France venaient tous les grands écrivains du monde entier, de Grèce, Kazantzaki, d'Angleterre, T.S. Eliot, des États-Unis, Wallace Stevens,
d'Argentine, d'Espagne aussi,
Machado, et des articles du Portugal, du monde entier. Et donc, en un certain sens, ces deux grands projets, l'intelligence philosophique européenne, comme disait Valérie avant la guerre de 14, et Bergson dans la culture européenne, sont très convergents. Je crois que c'est le grand chantier des deux prochaines années maintenant, disons 2012-2014. Le centenaire de la guerre de 14 est pour la philosophie un devoir de réflexion.
Eh bien écoutez, Frédéric Worms, merci. Donc je rappelle donc, le livre, donc Annales bergsoniennes 5, donc Bergson et la politique de Jaurès à aujourd'hui, qui vient de paraître au PUF. Je rappelle donc votre co-biographie, vous êtes co-auteur donc de Bergson chez Flammarion avec Philippe Soulez. Je rappelle aussi donc votre livre, un de vos livres sur Bergson qui s'appelle Bergson et les deux sens de la vie. Je n'oublie pas donc Frédéric Azoulay, La gloire de Bergson. Et puis donc en vous remerciant d'être venu.
Merci à vous
jusqu'à pour cette nous. Conversation. Donc merci. Et donc j'invite nos auditeurs à prendre ou à reprendre les œuvres de Bergson pour effectivement lutter, comme vous l'avez dit, contre le nihilisme ambiant. Merci.
Merci à vous.